Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes. Une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors ce soir, nous allons avoir la joie de voir et d'écouter la poésie de Michel Écart-Élial. Mais auparavant, je voudrais très vite faire une annonce. Il s'agit, j'en ai déjà parlé, d'un très beau livre qui vient d'être publié par les éditions L'Harmattan dans la collection « Questions contemporaines ». Il s'agit du livre de Jean-Luc Pouliquen, « Georges Pompidou, un président passionné de poésie », avec une préface du professeur Alain Pompidou, donc le fils de Georges Pompidou. Alors j'espère avoir le plaisir de pouvoir dialoguer avec Jean-Luc Pouliquen bientôt sur cet ouvrage qui est intéressant, hein, parce que, vous savez, par sa formation, par ses goûts, par ses rencontres, par ses écrits et ses réflexions, et en définitive par son action, Georges Pompidou, qui fut président de la République française du 15 juin 1969 au 2 avril 1974, après avoir été le premier ministre du général de Gaulle, souvenez-vous, du 16 avril 1962 au 10 juillet 1968, nous permet de mettre en lumière une préoccupation poétique au centre même du pouvoir. Il s'agit ici de la saisir dans toute son ampleur, de la suivre dans le développement d'une vie, de montrer comment elle chemine avec l'action politique et comment elle peut l'inspirer. Comme le note le professeur Alain Pompidou dans la préface qu'il a fait de ce livre de Jean-Luc Pouliquen, ce livre, dit-il, s'attache à faire ressortir l'un des traits de caractère d'une personnalité dont les rouages sont actionnés par le sens du devoir accompli et une passion pour la poésie, comme élément fondateur de l'expression culturelle. L'art est comme l'épée de l'archange, il faut qu'elle vous transperce. Et quant à Jean-Luc Pouliquen, vous savez qu'il est poète, qu'il est critique littéraire, qu'il a notamment publié aux éditions L'Harmattan, Mémoire Centaine, ses poésies de 1982 à 2002, avec une préface de François Dagonier, Gaston Bachelard ou Le rêve des origines, et avec Winfried Koffler, Le poète et le diplomate, avec une préface de Adolfo Pérez Esquivel, qui est prix Nobel de la paix, qui a été prix Nobel de la paix. Jean-Luc Pouliquen, Georges Pompidou, un président passionné de poésie, préface du professeur Alain Pompidou, donc aux éditions L'Harmattan, et c'est un livre qui ne vous coûtera que la somme de 11,50 €. Nous aurons le plaisir de faire une émission avec Jean-Luc Pouliquen sur ce livre et bien entendu aussi sur l'œuvre poétique personnelle de Jean-Luc Pouliquen. Pour le moment, nous allons partir en Israël avec Michel Écart-Élial qui vient de publier à ses éditions, les éditions Le Vent, 24 poèmes de Yehuda Mirai et de Roni Sonek qui s'appelle « Le baiser de la poésie ». Alors, tout d'abord, nous allons nous mettre dans l'ambiance et puis nous allons avoir Michel Écart-Élial avec nous. C'était Rosa de Maure Carbazy. Alors, disais-je, nous allons être en contact avec Michel Écart Elial, qui est poète, qui est traducteur de poésie hébraïque moderne, qui dirige la revue Le Vent, cahier de l'espace méditerranéen, dont la vocation est de promouvoir un dialogue pour la paix entre les trois rives de la Méditerranée. Michel, bonsoir.
Oui, bonsoir Christian, bonsoir tous les amoureux de poésie ce soir.
Merci Michel d'être avec nous sur Radio Occitanie. Nous allons parler ce soir plus spécialement d'une de tes dernières réalisations. Réalisation en ta qualité de traducteur et également en ta qualité de traducteur. Alors peut-être que nos éditeurs ont vu sur notre site les-poètes.fr depuis quelque temps un appel d'abord à une collecte pour la réalisation de ce livre, Le baiser de la poésie, 24 poèmes de Yehuda Mirai et de Roni Sommeck. Alors, tu as pris Yehuda Mirai, j'ai regardé un petit peu cet après-midi sur Internet, il y a une photo émouvante où tu es avec Yehuda Mirai en Israël, Yehuda Mirai, 1924-2000. Je me souviens également avoir lu à côté de toi des poèmes de Yehuda Mirai lors de à la foire exposition ici à Toulouse il y a quelques années. Et également Roni Sommeck, qui lui est notre génération puisqu'il est né en 1951 et qui a notamment publié un très beau texte avec Salah Alhamdani aux éditions Bruno Doucet. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre de ces deux générations de la poésie israélienne contemporaine et de cette filiation poétique dans sa célébration de l'amour, c'est-à-dire l'amour du proche, bien sûr, mais qui est aussi l'amour universel, l'amour du monde.
Oui, bien sûr, et disons la filiation entre ces deux poètes, deux générations différentes, hein, qui sont à l'écoute l'un de l'autre, hein, puisque Roni a été un petit peu l'élève d'Amirai, comme beaucoup d'autres poètes de sa génération, des années 80. C'est aussi ma filiation à cette histoire, cette expérience israélienne qui est une synthèse d'une tradition européenne qui vient d'Europe, avec Amirai c'est clair, elle vient même d'Allemagne, elle vient de la poésie allemande, de la poésie européenne, et ces générations de l'après, de la modernité, qui sont ancrés dans la réalité méditerranéenne. Et tu sais, Christian, combien cela me tient à cœur que de présenter ces visages de la présence d'Israël en Méditerranée. Amirai est né en 24, tu l'as rappelé, donc il est né dans une histoire européenne bien chargée, bien lourde. Roni Sommeck, lui, est né dans les années 50, on est à peu près contemporain, à Bagdad, c'est-à-dire dans un autre, je dirais presque une autre hémisphère de la culture, hein, l'Orient, tel que nous le représentons à travers notre réalité d'aujourd'hui, et une réalité un peu imaginaire, hein, qui est faite d'orientalisme, hein, tissé dans le passé, mais aussi qui est porteur de lumière, hein, cette lumière qui parfois ressemble au feu, mais dont j'espère qu'elle est aussi la lumière d'une modernité, celle que j'assigne à la Méditerranée. Alors, pour reprendre un peu plus en détail le portrait, enfin, de ces deux personnalités, Amirai est un poète qui est lié surtout à Jérusalem qui est sa ville, qui est sa résidence humaine d'homme de Jérusalem, de piéton de Jérusalem, comme on l'a appelé, mais aussi un visiteur de cette symbolique très forte, de cette tradition extrêmement riche dans sa, non pas dans sa religiosité, mais dans son historicité, oui, bien sûr culturelle, mais aussi mystique, hein, Jérusalem, qu'il porte à travers ses, sa poésie. Alors, Amiraï, c'est mon choix, c'est un choix qui remonte aux années 80, précisément. J'ai sorti le premier livre d'Amiraï aux éditions Actes Sud, hein, donc en Marle, chez Hubert Nissen. Ça a été une révélation, je pense, et pour moi, qui ai découvert un poète qui immense, hein, un poète immense comme le sont les poètes qui parlent de la vie, qui parlent de l'amour, qui parlent à travers leur langue, qui certes est contingente, locale, mais qui l'ouvre cette langue à l'universel. J'ai souvent parlé à propos d'Amiraï, évoqué la figure de Darwish, qui est son pas son frère jumeau, mais qui sont voisins dans la, dans cette cet espacement du régional vers l'universel. La poésie d'Amiraï est une poésie d'amour, une poésie d'amour du prochain, comme tu l'as dit, une poésie qui parle à tout le monde. J'ai été toujours interpellé par ces images très très simples, hein, qui sont celles d'une poésie ancienne, mais aussi d'une poésie qui est toujours vivante, hein. Les images simples de la vie d'hommes qui se lèvent le matin, qui descendent l'escalier, et qui, quand ils remontent pas cet escalier, c'est que quelque part une guerre les a appelés, cet enfant, l'image de cet enfant qui agite un cerf-volant au-dessus des murs de Jérusalem, ce cerf-volant qui est l'envol même de l'espoir de paix, mais qui se heurte, hein, quand il retombe au mur de pierre de Jérusalem, qui certes est une ville universelle, mais non point pacifique. Hein. On se bat pour l'universel, chacun dans son combat et sa compréhension de l'universel. Lui dépasse tout cela par ces images-là que j'évoquais, ou cette image du linge, d'un linge qui sèche dans le, à la fin du jour de la ville antique, et ce linge qui exprime l'idée même de la vie, d'hommes qui ont sué dans la chaleur du travail, de l'agitation humaine quotidienne, et qui vont se reposer, et le linge est lavé, le linge est essoré, le linge va sécher dans le soleil de la fin d'un jour, d'une journée de Jérusalem. Ce sont les, disons, l'imagerie de base, hein, d'Amiraï. Je voudrais également, à côté de cette représentation un petit peu idyllique, presque de pastorale, idyllique, de la pensée de ce poète, évoquer son engagement pour la paix, cet engagement, qui est celle d'un homme qui a vécu une histoire, il dit souvent, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire, et l'histoire même de mes amours, c'est l'histoire des guerres, hein, où l'on part et d'où l'on ne sait si l'on en revient. Cet engagement pour la paix qui la trame forte est certainement la plus intéressante aujourd'hui dans la réalité de la région et du monde. La paix qui est la seule chance de survie de ces hommes là dans cette région. Pour parler, alors j'évoquais rapidement Yehuda Amiraï. Bon, c'est un poète qu'on appelle national dans la mesure où il a
le Louis Aragon israélien, on disait.
Hein. Voilà un petit peu.
La génération vraiment dans la génération des pionniers quand même. Hein. On l'associe à Ben Gourion.
Voilà un homme qui, on disait souvent comme les grands poètes, je pense à Neruda ou d'autres, qui ont été les conseillers des princes, hein, oui. Tellement leur aura, si tu veux, personnelle, hein, l'aura de leur rêverie, de leur poésie, illuminait l'imaginaire, enfin, de la réalité politique. Oui, comme Amosov, hein, un écrivain de prose, un romancier, Yehuda Mirai a été vraiment le conseiller, le rêveur, si tu veux, de la société israélienne jusqu'à une certaine époque, jusqu'aux années précisément 80-90, où il prend une autre dimension, une dimension presque de retraite, hein, puisque d'autres générations viennent, accèdent à la parole, à l'expression, à la consécration, notamment Roni Sommeck. Voilà, Roni Sommeck prend aujourd'hui, puisque son œuvre est encore, est tout à fait, elle est là, elle se développe, hein, et ce n'est que justice que la traduction l'exporte, le fasse connaître dans d'autres langues, aux autres régions du monde, aux autres lecteurs de poésie, amoureux de la poésie. Roni Sommeck a, on peut dire, la même posture, enfin, de poète national, qui réunit un consensus, si je puis dire, hein, en donnant une valeur positive à ce mot, à ce terme, un consensus de rêverie, d'imaginaire positif, hein, quant au problème de l'existence de ce pays, de cette région. La différence fondamentale qu'il y a entre les deux, puisque, bon, hormis la différence générationnelle, c'est la différence d'écriture, pratiquant la même thématique de l'amour et de l'affrontement à la réalité et le rêve de paix. Roni Sommeck, qui vient de Bagdad, est né à Bagdad, et c'était une, entre parenthèses, je signale cette rencontre merveilleuse qui s'est faite à Sète récemment et qui a été le point de départ du livre de Bruno Doucet, Jérusalem Bagdad. Cette rencontre avec Salah al-Hamdani, je crois qu'il est passé sur l'antenne, hein, de Radio Occitanie.
Ils sont nés la même année dans la même ville.
Alors, la même année dans la même maternité de Bagdad. Ouais. C'était la surprise que ces deux frères, disons, ces deux frères éloignés par la réalité politique, hein, l'un fuyant l'Irak pour se réfugier à Paris, dans une langue qu'il ne connaissait pas, et Roni, lui, amené avec ses parents en Israël, hein, que ces deux enfants de Bagdad, comme l'a dit Gilles Rosier dans son livre, paru aux Arènes, je crois, hein, deux enfants de Bagdad, que ces deux frères, en quelque sorte, se reconnaissent, hein, comme tels, et engagent de manière poétique, un dialogue sur, non pas sur la nostalgie de Bagdad, mais sur la manière dont l'exil, fut-il israélien, l'exil peut irriguer la rive de l'avenir. Il peut apporter pas que charrier des limons du passé, mais il peut amener à une nouvelle dimension de dialogue. Et entre les deux, effectivement, il y a la Mésopotamie ancienne, mais il y a aussi la rencontre humaine, charnelle, enfin, d'hommes qui prennent la mesure du devoir de rêver et d'engager ce dialogue. Alors, Roni a une écriture, c'est le point que je voulais signaler, une écriture qui différente, je dirais dans un premier temps qu'elle est moins liée à la lyrique européenne. Amirail, certes, européen, est lié, bon, à toute cette poésie de Rilke, et éventuellement également par un petit saut, disons, à celle de Celan, c'est de poésie européenne, mais qui se devine, qui porte en creux, oui, la catastrophe d'une certaine parole poétique. Sommeck a une écriture qui est, je dirais, israélienne, en quelque sorte, si on peut donner un qualificatif israélien à l'écriture, une écriture avec beaucoup d'humour, qui recèle une bonne dose d'humour et d'ironie, qui n'est pas une poésie, qui est politique, éminemment politique, sans proférer de slogan politique. Elle est politique parce que elle aussi recourt à de la même manière que je parlais des images d'Amira, des images humaines et quotidiennes très simples de la réalité des habitants de Jérusalem. Ronnie évoque une imagerie qui est celle de la rue orientale d'Israël, de ces quartiers où des jeunes se frottent les uns aux autres, d'origines diverses, où les langues également, avec leurs accents orientaux et autres, se cognent presque pour définir un autre rapport à la langue poétique. La langue poétique n'est pas une langue précisément de rêverie, une langue de chevet, c'est une langue de promenade dans la rue, d'intrusion dans la réalité sociale la plus épineuse et la plus bouleversante. Voilà, c'est cette dimension méditerranéenne que je trouve précisément dans cette poésie de Ronnie Sommeck et qui en fait l'actualité, puisque la littérature israélienne dans son ensemble a découvert après les années 70-80 le fait très banal et simple pour nous qu'elle est plongée dans la réalité du Proche-Orient. Ronnie Sommeck, donc convoqué par le fait qu'il est un enfant d'Orient, de Bagdad, a magnifié cet outil qu'il avait, notamment la connaissance de la langue arabe, pour élaborer un outil poétique qui est tout à fait percutant. Alors il y a quelque chose qui là aussi réunit les deux et qui donne un visage réel, un visage tangible à la poésie israélienne. C'est une poésie qui vit avec la vie, si je puis dire. C'est-à-dire que les enfants à l'école voient les poètes qu'ils apprennent. Ronnie Sommeck est quelqu'un qui fréquente des écoles, qui dit de la poésie même à l'armée, oui, parmi les soldats. Il est une espèce d'icône sociale, il est devenu une icône sociale, quelqu'un qui se mêle à la vie artistique, à la vie de la peinture, de l'art, de la performance. Donc il est absolument présent dans cette société israélienne. C'est aussi quelque chose qui est fort intéressant pour nous par rapport à ce que nous savons de la fonction poétique, ce qu'occupe la fonction poétique dans nos sociétés à nous. Elle est assez marginale, comme on le regrette. Hein. Les livres de poésie sont des productions très marginales et marginalisés, c'est-à-dire qu'on accentue cette tendance hein, dans notre société, alors qu'en Israël et dans le monde arabe, je dois dire de manière plus large, hein, la poésie continue d'occuper, du fait de la tradition et du fait de sa prégnance dans la réalité sociale, culturelle, occupe une position centrale. C'était l'importance qu'avait Darwish, c'est l'importance qu'ont tous ces poètes arabes que nous avons côtoyés ici dans les festivals ou
sur l'antenne
même. Je crois qu'il y a des choses, là, des poésies, des poètes arabes qui ont été... qui ont été lus sur Radio Occitania. Il y a ici quelque chose qui est tout à fait une facture très particulière de cette poésie de l'autre rive.
Est-ce que chez Ronnie Sonek, il y a la même volonté qu'avait par exemple David Avidan d'être un peu en rupture avec la génération antérieure de manière à ancrer la nouvelle poésie israélienne dans une modernité spécifique?
Non, je dirais, pour l'avoir pratiqué, David Avidan, nous l'avons aussi connu, avoir connu ce mouvement ruptif d'une poésie qui était très liée à l'époque à la Beat Generation, au modèle de la poésie américaine, poésie de protestation, poésie de critique très très violente du langage. C'est une poésie de rupture, comme tu l'as dit. Il n'y a pas la même configuration aujourd'hui. Nous sommes dans une volonté de consonner avec la langue que tout le monde peut comprendre. Je pense qu'à l'époque d'Avidan, dont nous sommes dans les années 70-80 aussi, il a eu pas mal de poètes qui ont suivi son sillage. Il y avait quand même un creux, un fossé entre cette écriture provocative, parfois, je dirais presque agressive, vis-à-vis du langage de la tribu et de la réalité qu'elle pensait représenter. Il y avait tout de même pas toujours une bonne compréhension. Il y avait l'idée de l'avant-garde, si tu veux. Je pense que l'idée d'avant-garde n'est plus ce qu'elle était. Je pense pas que le poète, et un poète comme Ronnie Sonek, prétend et veut être une avant-garde. En d'autres termes, une minorité agissante. Oui, on n'est plus exactement dans cette époque. Nous sommes dans un monde
Romi Sommeck, avec Agit Grossman aussi, hein, une poésie plus douce, entre guillemets.
Poésie plus douce, plus amoureuse, je reprends le mot d'amour, plus amoureuse du monde.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a, cette volonté vraiment de ce désir de faire lien avec les lecteurs, avec sa société, tout en marquant une distance, critique. Mais le sentiment majeur que j'ai par rapport à ce projet, disons, de modernité, tu citais Agit Grossman que nous avons publié, et Ronnie Sonek aujourd'hui, il y a cette volonté d'être le changement sans forcément provoquer une rupture. Alors elle est plus douce, plus amoureuse du monde, je dis, insistant plutôt sur tout ce qui peut nous rassembler humainement et culturellement.
Il n'y a plus ce cri de révolte, hein. Il y a plutôt une volonté de main tendue, c'est ce que l'on ressent beaucoup plus, donc cette soif d'amour. Hein. Tu sais, il y a, chez nous, nous avons Jo Bousquet, qui est l'homme méditerranéen par excellence, quand même, Jo Bousquet, et qui a dit que l'homme est naturellement bon pour l'homme, à la condition que celui-ci ne le menace pas. Mais il ajoute, la conscience n'est qu'un chemin, et la vue de nos semblables s'y dresse toujours comme une menace. Alors, je trouvais que ça pouvait aussi résumer un petit peu la situation du Proche-Orient aussi, hein, c'est-à-dire de ces gens qui tendent la main et qui pensent que l'homme est bon, mais attention, il ne faut pas que quand même l'homme qui est en face apparaisse comme une menace.
Oui, il y a tellement de menaces. Aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire, on dirait que l'histoire amplifie ce qui était auparavant qu'un prodrome, quelque chose d'isolé. Il y a une violence terrible qui s'exprime dans le monde, au-delà de cette région. Je crois qu'il y a que paradoxalement, c'est pas la menace qui est dont on parle la poésie. C'est effectivement l'ouverture de la main, c'est-à-dire la main tendue vers l'autre pour faire cohabiter ces existences difficiles. Il y a un point où, en face des menaces qui sont devenues très très fortes, qui se sont élargies, disons, aujourd'hui, il y a je pensais à l'instant, ce poète de Gaza que j'avais rencontré à Sète, au dernier festival, et qui est revenu dans sa maison et envoyait des poèmes, comment il continue à écrire sous les bombes, si tu veux. Peu importe, voilà, pour reprendre ton propos, peu importe d'où viennent les bombes. Peu importe d'où viennent les bombes, ce qui ne veut pas dire que il n'y a pas de bombes bonnes ou mauvaises, si tu veux, en quelque sorte. Par contre, les bombes exigent du poète qui continue à écrire, même seul, même pourchassé, exilé, il doit continuer à tendre la main et à marcher sur le fil au-dessus du vide, hein, qui le relie à l'autre. Je crois que c'est cette figure-là qui l'emporte, hein, dans la poésie que je lis, et des uns et des autres, hein, et que je trouve exemplairement manifestée dans la poésie de Rony Sommeck, par exemple.
Pour revenir à Jo Bousquet, il disait il faut que chacun habite le côté ensoleillé de sa personne. Et en réalité,
c'est, voilà, donc c'est le côté solaire qu'on essaie d'accueillir. Oui, hein. Oui. On part du principe qu'il y a un côté solaire. Il y a deux soleils. Il y a un soleil qui a subi la loi de la Terre, donc qui a ses saisons et ses caprices et ses violences. Il y a un autre soleil qui est le soleil du poète, qui l'ensoleille, quel que soit le temps, et illumine sa trajectoire.
Michel, si tu le veux bien, on va revenir sur le baiser de la poésie, ces 24 poèmes, et on va te demander de bien vouloir nous lire quelques extraits de ce livre, hein, qui est édité, alors on n'en a pas parlé, édité chez Le Vent, donc on peut se procurer ce livre, on peut l'avoir directement par Internet. Hein.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est édition Le Vent. Voilà, nous avons un site sur le net et une page de Facebook sur les réseaux sociaux, donc c'est relativement facile de se procurer d'avoir de l'information sur le travail de Le Vent, qui est un projet quand même qui est présent, qui a de la presse de la bouteille, puisqu'il existe depuis 88, et que nous marchons toujours sur un fil raide, hein, mais que ce film, nous continuons à le tendre et aller vers l'autre.
Donc,
effectivement, on peut se procurer de l'information. Et les derniers livres que nous avons publiés, dont il y a ce Baiser de la poésie qui est un dialogue dont deux générations poétiques autour de l'amour. Le Baiser de la poésie, le titre même est emprunté à Rony Sommeck. Rony Sommeck, on l'évoque très peu, mais est aussi un artiste graphique. Hein. Il fait des collages, il peint, il a pas mal d'expositions en cours en Israël. Et j'ai pris une de ses gravures, un de ses titres de gravure pour bâtir ce choix que j'ai fait autour d'Amirail et de Rony Sommeck. Il y a, avant le Baiser de la poésie, il y a eu plusieurs parutions, dont tu as parlé, Christian, qui ont été présentées sur Radio Occitania, Diti Ronen, Quand la maison revient, Ragil Grossman, poème d'amour. Il y a également une édition, alors parce que nous, tu le sais, Le Vent est un projet tissé autour de la Méditerranée, du dialogue méditerranéen, que nous voulons être celui des langues et des cultures, hein, et nous avons toujours envie de publier aussi dans d'autres langues, ce qui était le cas de la revue Le Vent, ce qui est toujours notre fil conducteur, et nous avons publié dans cette nouvelle série de livres de poésie le livre de Mattia Icar en italien, de même que nous avons publié en mai l'anthologie d'écrivains italiens, une anthologie d'écrivains italiens, des nouvelles tendances de l'écriture italienne qui s'appelle Soyons le changement. Je crois, et ce livre-là, très brièvement, ce livre-là, Soyons le changement, est un jalon important pour marquer notre présence et notre désir de continuer ce chemin de dialogue. Dans les termes où tu l'as évoqué tout à l'heure, Christian, en citant Bousquet, oui, nous vivons dans un monde de menaces, oui, dans un monde de violence, mais ce que nous cherchons, ce que nous voulons porter, c'est la lumière. Hein. Nous sommes du côté des porteurs de torches de lumière. Voilà. Alors, du côté du changement.
Tu sais ce qu'il disait.
Alors je dirais, si tu le veux, oui,
Bousquet, tu m'as demandé de lire lumière un texte. Et de poète, il disait, la poésie est aveugle, elle cherche le poète. C'est la poésie qui cherche le poète. Donc c'est lui qui a la lumière, c'est le poète qui a la lumière.
Hein. La lumière, et là c'est
la poésie est à tous parce qu'elle ne connaît personne, il disait aussi. La poésie est à tous parce qu'elle ne connaît personne. Voilà. Pour ce dont tu viens de parler, je veux dire que nous avons mis aujourd'hui même sur notre site tous les renseignements sur l'anthologie dont tu viens de parler, l'anthologie italienne. Hein. Voilà. Donc pour nos auditeurs, tous les livres dont nous avons parlé, eh bien vous trouverez les renseignements sur notre site les-poètes.fr. Voilà. Alors Michel, est-ce que tu peux nous donner maintenant lecture d'extraits du Baiser de la poésie?
Oui, bien sûr.
Tu vas commencer, je suppose, par Yehuda Mirai.
Dans l'esprit des propos que nous avons eus à l'instant, dont des poèmes qui disent, qui ne taisent pas la fureur du monde, mais ce qu'Amiral le déluge, oui, il parle du déluge, mais comme nous le savons du récit biblique, le déluge donne la possibilité de faire peau neuve. Hein. Le déluge, on attend qu'il renouvelle la terre. Alors, je lirai ce poème qui, dont le titre est « Nous n'avons pas attendu » de Yehuda Amichai, présent dans ses 24 poèmes d'amour. « Nous n'avons pas attendu que l'eau du déluge sèche sur la terre. Avant nous, la fumée de l'usine savait que le monde était debout. Il a changé sous des vents contraires. Il nous a prévenus de la faim. Nous savions enfin que le monde est ouvert à l'épée, à la faim et l'espoir. Quand la terrible nuit fut proche, la lune jeta comme on abat ses cartes, souffrant comme nous et aimant. les nuages de l'automne sur la table du ciel. L'air seul est frappé par des hélices. Le calme est descendu sur notre fatigue. Alors voilà un poème qui parle de menaces, qui parle de fatigue du monde, qui parle même de déluge, mais qui couvre quand même, qui laisse couver l'espoir, la possibilité, à condition d'être debout, de rester debout, comme je dirais Noé sur l'arche, qui en plein déluge tout de même regarde le ciel, hein, à cette lucarne sur l'arche qui permet de voir que le ciel est lumineux et qu'il attend seulement que cette lumière puisse irradier le monde et que le monde puisse croître et verdir à nouveau. Nous avons dans ce poème d'Amirail, nous avons la même vision enfin de la fatigue du monde qui est celle de la terre, hein, de la terre qui dont nous savons toute la fatigue, hein, l'érosion et aussi la fatigue humaine, mais en même temps il y a en face de cette fatigue il y a le fait d'attendre que le ciel se redresse, hein, et que la lumière que la lumière restreinte, hein, au temps du déluge, hein, illumine le monde. Alors, bien sûr que le poète est là, et l'homme, tout simplement, le poète à l'image de l'homme qui reste debout, et le vase qui contient toujours, comme dit la Kabbale, qui contient toujours la lumière. Il porte sa torche malgré la tempête. Je crois que toute la poésie universelle porte cette image de l'homme qui ne se laisse pas emporter par le déluge. Bon, peut-être un autre poème, si tu veux.
Bien sûr.
Si tu veux bien.
On t'écoute. Allô, Michel ?
Oui.
Oui, on t'écoute, Michel.
Alors, un autre poème qui est en direction de l'amour plus intime, hein, de l'autre, du prochain. Où serons-nous quand ces fleurs deviendront fruits dans les trois entre deux, où la fleur n'est plus une fleur et le fruit n'est pas encore un fruit ? Quel merveilleux entre deux, nous formions l'un pour l'autre entre nos corps, entre nos yeux, entre l'éveil et le sommeil, entre chien et loup, ni jour ni nuit. Ta robe de printemps a pris si vite les couleurs de l'été, elle flotte déjà à la brise de l'automne. Ma voix n'est plus ma voix, mais déjà presque prophétie. Quel merveilleux entre deux nous étions, comme la terre entre les fissures du mur, brin de terre têtue sous la mousse vivace. Le caprier épineux, dont les fruits âpres rendaient plus doux ce que nous mangions ensemble. Voici les derniers jours des livres, avant que ne viennent les derniers jours des mots. Vienne le jour où tu comprendras. Donc voilà un poème qui parle du rapport à l'autre, un rapport de réciprocité entre un rapport à la fois qui porte, continue à porter l'énigme de l'autre, mais ne serait-ce que pour mieux le connaître, mieux l'appréhender, mieux mesurer sa préciosité. Un autre texte, un tout petit texte, aussi, alors, poème d'amour de la femme compagne de l'homme, comme la langue est la compagne de l'homme, pour bâtir le monde et pour être le fruit du monde. J'ai appris à parler à ton sexe comme un visage. Je parle sa langue antique. Elle est ridée et faite de chair plus ancienne que toutes les générations dont se souviennent les livres. Elle part de nous comme à de lointains compagnons de jeu. Voilà un poème très court et nous trouvons chez Jean-Mirel beaucoup de poèmes, disons, qui ont cette facture. Enfin, un langage fait d'un vocabulaire très très simple. Hein. Il faut redire, enfin, quand même, cette langue est une langue courante hein, et que c'est sa grande
force.
Et c'est sa grande force, hein, ouais. Puisqu'elle peut ainsi accéder à tous les lecteurs, ouais. Enfants comme adultes, et sans que la culture, l'éducation soit une barrière. Une barrière d'interdiction de la lecture.
Je me souviens que l'on avait lu dans les années 80, dès que tu avais fait cette anthologie chez Actes Sud, on avait lu les poèmes de Yehuda Mirai au salon d'exposition, je pense que c'est peut-être dans le cadre de l'exposition, et les gens écoutaient tout de suite, hein, c'est-à-dire qu'elle est immédiatement perceptible. C'est quand même rare d'arriver à un poète. J'ai connu Malrieu aussi, les poèmes de Malrieu. Par exemple, j'avais lu les poèmes de Malrieu dans la gare Matabio. Les gens s'arrêtaient et immédiatement pouvaient avoir une appréhension du poème. On t'écoute, Michel.
Oui, je quitterai un petit peu le champ ici du proche, enfin du proche aimé, du proche de l'amour, pour... toujours dans ces poèmes qui formaient par l'éventail, oui, l'éventail large du sentiment d'amour, un autre texte où l'amour est là, c'est aussi le sentiment de la conviction que l'on peut, dans cette énigme que représente l'altérité, qu'on peut se tromper, et que la parole est quelque chose qui essaie de cheminer avec le doute. Le monde est fait de doute, pas que de vérité. C'est la force de ce poème qui s'appelle « L'endroit où nous avons raison ». À l'endroit où nous avons raison ne pousseront pas les fleurs du printemps. L'endroit où nous avons raison est piétiné, hostile comme le monde extérieur. Mais comme des tops et des labours, les doutes et nos amours rendent le monde friable. On entendra un murmure s'échapper de la maison qui a été détruite. Voilà donc un texte qui dit combien le doute permet précisément de creuser l'habitation, enfin de la rendre plus riche, de ne pas se bercer dans l'illusion que les murs sont toujours dressés, qu'ils le resteront toujours, mais que nous sommes comme des tops, nous sommes toujours en train de creuser, pas de miner les murs, mais enfin de creuser d'autres racines à ce qui s'élève en face du ciel. Un autre texte de Yehuda Mirai, alors qui est un texte assez qui peut-être va nous permettre de nous rapprocher de Rony Sommeck, de rapprocher de la lecture de quelques poèmes de Rony Sommeck. C'est un poème d'amour simple, d'amour passionné, je dirais. 60 kilos d'amour pur, conçu à la perfection qui se conçoit seul, sans plan d'architecte, sans début ni fin, de féminité nette, passionnée, de génétique pure, indépendante, de cellules d'amour qui s'engendrent l'une l'autre. Ni l'environnement, ni les changements ne peuvent rien pour toi. Il te rend plus belle de l'extérieur, comme un soleil couchant. De l'intérieur, il te chatouille, te font rire. Je t'aime. Voilà un poème d'amour net, oui, d'amour pur. Dont sent net aussi dans le sens de la propre poétique d'Amira, qui, en tant que poète israélien, bien sûr, n'est pas exempte d'allusions bibliques. Quand on parle de l'amour, bien sûr, on pense dans notre tradition universelle, oui, au Cantique des Cantiques. Hein. On pense à toute cette merveilleuse poésie de l'âge andalou, oui, de l'Andalousie, où le profane et le sacré se mêlent. Donc c'est ça la poésie d'Amira. Mais ça peut être aussi, comme ce poème que je viens de lire, un poème qui est tout nu, sans allusion biblique, hein, qui est seulement la découverte du visage, du abrupt, oui, de l'amour.
On va passer à Ronnie Sonnec, je suppose, Michel.
Oui, oui, je pense que
nous avons 4 minutes devant nous.
Si, on paraît.
On t'écoute.
Le monde est en feu, je l'aime. En feu la laisse du chien qui m'a conduit aveugle dans un amour ancien. En feu le chacal qui hurle dans une chambre de soldate face à une porte fermée à clé. La queue de cheval derrière une nuque hollandaise. Les lèvres où s'étale un lipstick canadien. En feu le glaïeul qui a griffé la tête d'une poétesse du Kiryatono. En feu les vers de celle qui a toujours écrit sur les roues du camion qui a fini par l'écraser. En feu le sol qui garde les traces de ma première danse. En feu la lune et ses dunes de sable. La tempête, la mer dont les vagues se mettent à genoux devant l'allumette qui met le feu aux poudres. Donc voilà, ici on peut remarquer de la particularité de l'écriture de Ronnie Sonnec par rapport à la poésie plus traditionnelle d'Amira. Bon, le goût de la formule, le sens de l'ironie et aussi le ton presque familier, oui, de sa parole. Un autre texte qui va dans le même sens. Pour connaître l'âge du cheval, poème d'amour. C'est en regardant ses dents qu'on reconnaît l'âge du cheval. À 6 mois, il a 4 molaires. À 2 ans, il en a 6. Et elle continue à grandir jusqu'à ce que les dents définitives remplacent les dents de lait. À 10, une fissure apparaît dans la dernière molaire. Elle atteint la mi-longueur de la dent quand le cheval a 15 ans. Puis, dès la 25e année, elle se met à disparaître. Pour connaître l'âge de l'amour, il faut regarder ses dents de lait. Une petite cicatrice indique ce qui a été abandonné ou retiré. Voilà, quelque chose un ton très différent, hein,
très familier,
ludique, ironique. Hein.
Ironique, ouais. Ouais.
Voilà. Alors, un autre poème qui va dans le même sens. Alors, il y a toujours des images. Hein, j'ai souvent signalé dans la poésie israélienne, il y a peu de métaphores. Hein, c'est une poésie qui a évité le surréalisme, qui a grandi, qui a poussé en dehors ce grand continent incontournable du surréalisme. Par contre, il y a des images que je lis pour moi au texte biblique. C'est la tradition, hébraïque de la poésie israélienne, qu'on retrouve d'ailleurs dans la poésie arabe voisine. Mais comme tu le sais, la poésie arabe a une poétique de métaphore. Très souvent, je pense à Denis ou même à Salah al-Hamdani, dont nous avons parlé. Oui. Mais chez les poètes arabes, disons, voisins, c'est-à-dire qui habitent tout à côté, en Jordanie ou dans les territoires palestiniens, on retrouve ce sens de l'image et l'absence de la métaphore. Et je pourrais bien sûr développer ce point-là. La métaphore, quelque part, quand même, parle d'absence. La métaphore parle d'absence. L'image et la comparaison parlent de rapprochement, de rapprocher des choses qui sont rapprochables. Donc elle parle de présence. Et je crois que cette poésie veut vraiment le rapprochement. Elle veut se rapprocher, veut que les uns se rapprochent des autres. Elle veut se rapprocher du monde. Alors voici un poème avec aussi dans la même tonalité ironique et presque ludique, hein, qui s'appelle « Poème d'amour avec ventilateur au plafond ». Nous sommes les ailes métalliques d'un vieux ventilateur. La vis qui nous a suspendus au plafond se rappelle la langue du tournevis, vrillant ses lèvres, et le grognement du béton au moment de pénétrer. Au bout de la pièce, la radio est allumée et sur l'échelle des sons grimpent les mots comme les ouvriers musclés. Quelqu'un chante « Si t'aimer est une erreur, je ne veux pas avoir raison ». Alors,
Michel,
René Sommeil dit « Je ne veux pas avoir raison » comme tout à l'heure à Mireuil, dans le poème que j'avais lu, disait qu'il veut ne pas avoir raison. Et je le rattache, c'est des expressions, je le rattache à ce que tu as dit, Christian, quand tu as cité encore Bousquet, Jo Bousquet. Il y a ici le désir de, non pas de neutraliser les menaces du monde, mais de s'arrimer à une vérité qui puisse confondre les doutes, qui puisse faire fondre la dialectique enfin des uns des autres. Mais il y a la volonté que les doutes même alimentent soit le ciment, sinon le béton, d'un chemin où aller, d'un chemin où aller vers l'autre.
De réconcilier les contraires. Michel, il va nous falloir conclure parce que nous avons déjà dépassé l'heure. On peut conclure, si tu veux bien, sur cette phrase de Jo Bousquet : l'amour des hommes est le prix de la confiance que l'on met dans l'amour. Ça te va comme conclusion ?
Tout à fait, oui, je pense que l'amour nous...
Merci beaucoup, Michel.
Nous donne raison. C'est une chose qui nous donne raison.
Donc, 24, le baiser de la poésie.
Je
redonne et Ronnie Sommeck, hein, que l'on peut commander aux éditions Le Vent, oui, que tu nous donnes.
Édition-levent.net, c'est le site auquel toute personne intéressée peut s'adresser pour avoir des informations sur ce livre.
Merci beaucoup, Michel. À très bientôt.
Merci à vous.
Merci infiniment. À très très bientôt.
Et à très bientôt, Christian. Au revoir.
Claude et moi, nous souhaitons aux auditeurs de Radio Occitanie une excellente soirée. À l'écoute de Radio Occitanie et de Racine la Terre qui va nous succéder. Et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.